Sur Radio Grille Ouverte, vous écoutez Fréquence Buissonnière.
Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis accompagné de Léandre et aujourd'hui, les élèves de la 4e A du collège Marceau-Lapierre de Saint-Jean-du-Gard sont réunis pour enregistrer une émission de radio sur le thème des journalistes.
Oui, programme chargé, nous allons les laisser vous parler de l'évolution de la presse et du métier de journaliste.
Et vous présenter quelques journalistes héroïques.
Mais en tout premier lieu, c'est dans la parole à Dorian et Timéo qui vont nous parler d'un film qui soulève bien des questions.
Ce film, c'est Les Illusions Perdues de Xavier Giannoli, sorti en 2021 et récompensé par 7 Césars, dont celui du meilleur film en 2022.
C'est l'adaptation d'un roman de Balzac qui raconte l'histoire de Lucien de Rimbert-Pré, un jeune homme qui monte à Paris pour devenir poète dans la capitale. Il rencontre Lousteau, qui est un journaliste qui devient son maître, il lui montrant comment pratiquer son métier pour obtenir la gloire. Mais ça ne marche qu'un temps, Lucien finit par tout perdre.
Ce qui explique le titre « Désabusé », mais Lucien n'est pas le seul désabusé. Les leçons de journalisme données par Lousteau sont terribles. Il explique à son élève que le rôle d'un journaliste, c'est surtout de faire gagner de l'argent aux actionnaires du journal et de s'en mettre le plus possible plein les poches en créant autant que possible du scandale.
Ce roman se passe il y a 200 ans et c'est vrai que les leçons de Lousteau semblent encore appliquées par certains animateurs d'émissions ou certains youtubeurs. Mais peut-on vraiment qualifier ces gens de journalistes ?
Pour lutter contre les dérives que l'on découvre dans le film, la profession s'est dotée d'un code de déontologie. C'est Bastien et Luc qui vont nous en parler.
La déontologie, c'est l'ensemble des règles et des devoirs qui régissent une profession. La conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients et le public. L'histoire de la déontologie. La question de la déontologie des journalistes est apparue avec leur professionnalisation. En France, les fondateurs du Syndicat national des journalistes ont rédigé la charte des devoirs professionnels des journalistes français en 1918. Elle a été révisée régulièrement. Tous les syndicats de journalistes français ont aussi participé à la rédaction de la Charte de Munich.
La Charte de Munich, c'est une déclaration des devoirs et des droits des journalistes, signée le 24 novembre 1971 à Munich, en Allemagne, et adoptée par la Fédération européenne des journalistes. La défense de la liberté d'information et de la critique, le respect de la véracité des faits, la publication uniquement d'informations dont l'origine est connue et validée, ou d'accompagner la publication de réserves. Interdiction du plagiat, de la calomnie, de la diffamation et d'accusations infondées. Interdiction de recourir des méthodes déloyales dans l'obtention du contenu publié, le respect de la vie privée de la personne, le secret des sources, ne pas faire de communication publicitaire ou de publication de propagande. Ne pas céder la pression et accepter des directives uniquement de sa rédaction.
Est-ce que la recherche de la vérité des informations empêche les journalistes d'avoir un point de vue ?
La profession de journaliste recouvre des réalités assez variées. Ce n'est pas la même chose de travailler pour une agence de presse comme l'AFP qui produit des contenus neutres.
Ou de travailler pour des journaux qui ont une ligne éditoriale bien affirmée pour plaire à leurs lecteurs.
C'est surtout très différent d'être rédacteur ou reporter.
Les grands reporters, en choisissant leur sujet de reportage, peuvent faire preuve d'un véritable engagement et partager leurs convictions.
Le truc, c'est qu'elle est plus jolie. Et ça, ça fout la haine. Puis elle poste une photo et l'autre, elle met un j'aime. Et puis elle se sent mal. Pourquoi faire semblant de bien l'aimer? Car en attendant, c'est bête, mais elle veut lui ressembler. Pourquoi faire semblant de bien aller? Dominique, elle ment. Car c'est tentant de leur montrer, même si c'est pas vrai. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. I wish I'd be like you, you wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. Le truc c'est qu'elle donne envie. Et ça, ça fout la haine. Quand elle se regarde, elle se dit, de toute façon moi je suis mieux qu'elle. Après elle se sent mal, pourquoi faire semblant de bien l'aimer? Car on attend. dedans. C'est bête, mais elle veut lui ressembler. Pourquoi faire semblant de bien aller? Dominique, elle ment. Sa vie n'est pas parfaite comme elle aime le montrer. Nobody's really happy. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. Oh, finally. Nobody's really happy. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. I wish I'd be like you. You wish you'd be like me. Qui sort heureux d'ici. You make me feel. You make me feel. As I make you feel. Well, you make me feel like a big shit. Like a big shit.
Vous venez d'entendre Victime des réseaux, un titre de la chanteuse belge Angèle, et vous êtes toujours sur le 88.2 dans Fréquence Buissonnière avec les élèves de la 4e A du collège Marceau Lapierre à Saint-Jean-du-Gard. Ils poursuivent leur émission consacrée au journalisme et présentent des reporters qui ont marqué l'histoire.
Nolan et Léa vont nous parler d'Albert Londres.
Albert Londres est un journaliste et écrivain français très célèbre, tellement reconnu qu'après sa mort en 1932, le prix Albert Londres couronne en France le meilleur grand reporter de presse écrite.
Il a commencé sa carrière de journaliste en 1906 et s'est fait reconnaître par ses reportages sur le terrain pendant la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918.
C'est un reporter engagé qui travaille pour défendre ses idées et dénoncer les injustices.
C'est la publication de Bann qui marque un véritable tournant dans sa carrière. Il raconte ce qu'il découvre sur les conditions des prisonniers envoyés en Guyane et fait partager son indignation à ses lecteurs.
À présent, nous allons écouter Robin qui va nous parler du légendaire photographe Robert Capa.
Robert Capa est un reporter photographe très connu, né le 22 octobre 1913 à Budapest et mort le 25 mai 1954 en Indonésie. Il est considéré comme l'un des pères du photojournalisme et a eu le courage de rendre compte des faits de guerre. Il fut le compagnon de Gerda Taro, qui inventa son pseudonyme et lança sa carrière. Il a couvert les plus grands conflits de son époque et est l'un des incroyables fondateurs de la coopérative photographique Magnum, première de ce genre à voir le jour. Il a été de tous les conflits, rien ne l'a arrêté. Il a couvert la guerre d'Espagne entre 1936 et 1939, aussi bien que la résistance à l'invasion japonaise en Chine en 1938.
Et c'est maintenant à Chloé de nous parler d'une photo très célèbre de ce photographe.
Robert Capa, le partisan espagnol. La photo qu'on vous présente s'intitule « Mort d'un soldat républicain ». Elle a été prise le 5 septembre 1936 et publiée immédiatement par le magazine Vue. Puis, elle a été rachetée par le magazine Life et publiée en 1937. Elle montre la mort, prise sur le fait, d'un milicien républicain durant la guerre d'Espagne. Au premier plan, dans la moitié gauche de l'image, on voit un milicien en train de tomber en arrière, bras écartés, fusil à la main. Il semble fauché par une balle. Autour de lui, il n'y a rien qu'un paysage désertique. La photo aurait été prise aux environs de la ville d'Espero et elle a provoqué de nombreux débats, car on l'a soupçonné d'être une photo fausse. Mais aujourd'hui, c'est l'une des photos les plus célèbres et elle est reconnue comme l'une des meilleures photos de guerre jamais prises.
Et nous passons la parole à Méline qui va nous parler du débarquement en Normandie.
Photographie Robert Capa du débarquement. Robert était présent au moment du débarquement le 6 juin 1944 et prit 19 clichés. Sur ces photos, on peut voir les troupes alliées s'élancer sur les côtes normandes. Ces clichés sont légendaires car nous y voyons un des moments les plus importants de l'histoire de France, un moment marquant de la libération de la France et la défaite de l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale.
Je passe maintenant la parole à Shaina et Cassiopée qui vont nous parler du célèbre Kessel.
Quand on parle d'un journaliste héroïque, on pense à Joseph Kessel. Joseph Kessel s'est aussi engagé pendant les deux guerres mondiales. Pendant la Seconde Guerre, comme correspondant de guerre, il a rejoint la résistance et rallié le général de Gaulle à Londres. Après la libération, il est un des rares reporters à assister au procès de Maréchal Pétain.
Après cela, en parallèle de son activité de romancier, il a continué son activité de reporter et on lui doit des textes fameux, une enquête du journal en Palestine, Les secrets de l'Arabie ou L'Allemagne vue des bas-fonds. Il a beaucoup voyagé pour réaliser tous ses reportages. Par exemple, il a fait un long voyage en Afrique, au Kenya, où il a enquêté sur la révolte des Momo.
Faut-il nécessairement être un homme et mort pour être un reporter engagé ou héroïque ?
Non, bien sûr. Max et Eleanor vont maintenant nous parler de Florence Aubenas.
Florence Abinas est née le 6 février 1961 à Bruxelles. Elle débute sa carrière au Matin de Paris avant de rejoindre le journal Libération en 1986, à 20 ans.
Elle aime beaucoup son métier, elle est passionnée. Elle est diplômée du CFJ, Centre de formation des journalistes, en 1986. Elle lança le concours Le Monde Académie destiné aux jeunes qui veulent devenir journalistes car elle souhaite transmettre sa passion. Elle pensait que ce métier serait difficile, mais ce fut tout le contraire. Pour elle, c'est comme un métier d'aventure.
Elle a travaillé sur de nombreux événements au Rwanda, au Kosovo, en Algérie, en Afghanistan et en Irak, ainsi que plusieurs grands procès en France. Elle a les qualités d'une bonne journaliste, la Deborah 10 et la curiosité.
Dernièrement, on lui doit le quai de Ouistreham, un reportage en immersion sur les conditions de travail des femmes de ménage.
Nous allons maintenant passer la parole à Josian qui va nous parler de classe investigation et poser quelques questions.
Pour s'initier aux journalistes, toute la classe a participé à un jeu de rôle nommé classe investigation. On devait interroger 7 sources différentes à partir des différents témoignages. On devait composer une brève, un article court disant l'essentiel. Mais aujourd'hui, on a avec nous une véritable journaliste en devenir, et je vais lui poser quelques questions. Qui êtes-vous ?
Je m'appelle Jessica Pivert, et donc je suis journaliste en alternance chez Radio Grille Ouverte à Alès.
Ok. Que faites-vous dans la radio RGO ?
Alors, je fais des flash infos, donc, où je donne les informations sur ce qui se passe autour d'Alès. Du coup, pas forcément que des informations, on va dire, sur des événements, mais aussi ça peut être sur des projets politiques ou ça peut être ouais, sur des informations un peu comme ce que vous voyez au journal télévisé, mais plutôt d'un point de vue local. Et je fais aussi une émission qui s'appelle Parole aux habitants. Et là, on va à la rencontre des associations dans les quartiers. On fait des reportages sur ce qui se passe dans les quartiers.
D'accord. Est-ce que vous avez toujours voulu être journaliste ?
Alors non, ça a toujours fait partie un peu des métiers que je pouvais envisager, mais c'était pas non plus forcément mon rêve ultime. Mais en fait, d'une chose à une autre, j'en suis venue à m'intéresser de plus en plus à ça. Et puis surtout, j'ai fait ce qu'on appelle un volontariat en service civique auprès d'une association qui regroupe toutes les radios associatives de la région Occitanie. Et là, je me suis un peu plus intéressée à la radio et puis j'ai fini par faire mon alternance chez Radio Grille Ouverte.
Et quel est votre meilleur souvenir du reportage ?
Ah, alors là, j'en ai un super, mais vous n'allez pas connaître, je crois, parce que la plupart, vous êtes trop jeunes. Mais du coup, j'ai interviewé un rappeur qui s'appelle Kerry James et qui est venu en concert à Alès. Et vraiment, j'avais trop envie d'interviewer ce rappeur, mais j'aurais jamais pensé que ça m'arriverait, et surtout pas aussi tôt dans mon petit début de carrière. Et donc, du coup, je l'ai interviewé. Et je l'ai interviewé aussi en faisant une fausse conférence de presse avec des jeunes de à peu près votre âge que j'ai préparé pour faire cette interview. Et c'était très, très chouette comme moment. Et surtout, il était super, super gentil et très accessible. Donc, c'était très agréable de pouvoir passer ce moment avec lui. Bah, merci de m'avoir interviewé alors.
Non.
Au revoir.
Les quatrièmes du collège de Saint-Jean-du-Gard reviennent pour la dernière partie de cette émission sur le journalisme, juste après ce morceau de soprano intitulé « Mon précieux ».
Ta douce mélodie me réveille chaque matin. Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main. Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien. Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin. Mon café, mon jus d'orange, j'en le partage aux amis. En voiture, mes yeux sont dans les tiens, dans quelques feux je crie. Au boulot, on part tellement ensemble que des dossiers j'oublie. Au dîner, vu le silence, tout le monde t'aime dans ma famille. Baby, je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie des autres pour me divertir. Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris. Mes yeux dans tes applis, baby. Mon précieux, mon précieux, mon précieux, mon précieux.
page.
Tu es ma secrétaire, tu gères mon organisation. Tu allèges mes neurones grâce à tes notifications. Plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow. Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos. Pourquoi aller en concert? Tu m'as tout mis sur YouTube. Tu m'aides à consommer car tu ne me parles qu'avec des pubs. Je fais plus gaffe à l'orthographe depuis que je te parle avec mes doigts. Mes gosses font plus de toboggan, ils préfèrent jouer avec toi. Baby, je te partage ma vie au lieu de la vivre. Tu me partages la vie.
Bon, j'aimerais revenir et faire un petit sondage aux élèves de la classe. J'aimerais savoir comment ils s'informent. Vous pourrez lever la main si vous vous informez par un journal télé. Bon, il y a une petite moitié de la classe, je pense, une dizaine à peu près. Oui, un petit peu moins. Ok, et par les réseaux sociaux.
Donc c'est tous. Quasiment.
Ouais, les trois quarts de la classe, je pense qu'il y a...
Plus que les trois quarts, ouais. Hein, on est sur... Il n'y a que toi qui n'as pas levé la main, c'est ça. Donc il n'y a que deux personnes dans la classe qui ne s'informent pas via les réseaux sociaux.
Combien en a qui s'informent par la radio?
Ouais.
Il n'y en a que deux. Hein. Il n'y en a que deux. Et par le journal papier.
Et là, il n'y a personne.
Il y a une personne. Bon, moi, j'ai plus de questions, mais je peux céder la parole à Jessica si vous avez des questions.
Oui. Alors, Arthur, Liam et Cassiopée, est-ce que vous aussi, vous faites partie de ceux qui s'informent avec les réseaux sociaux?
Ouais.
Oui.
Oui.
Et alors, qu'est-ce que vous allez chercher comme information sur les réseaux sociaux?
Moi, je vais chercher un peu de tout pour ma part. Après, il y a des réseaux sociaux comme TikTok. Après, on a les infos sans qu'on le veuille forcément. Et ça peut être pratique. Donc, il y a vraiment de tout. Ça peut nous informer sur la voisine, comme sur à l'échelle mondiale. Donc,
Et est-ce que des fois, il y a des informations, ou en tout cas, qui ne sont pas forcément les bienvenues, du coup? Parce que si tu as tout et n'importe quoi, est-ce qu'il y a des fois, il y a des choses que tu aurais préféré ne pas voir?
Oui, évidemment. Mais avec ces informations, on peut les enlever et ne pas s'intéresser. Et du coup, comme TikTok les enlève, nous ne les remettons plus.
Et du coup, Arthur et Liam, vous aussi, vous êtes beaucoup sur TikTok ou il y a d'autres réseaux sociaux sur lesquels vous allez?
Ouais, surtout sur TikTok. C'est pareil, j'ai des informations sans les chercher. Et ça s'adapte à nos préférences.
Ça, c'est parce qu'il y a sur les applications, il y a ce qu'on appelle des algorithmes qui, du coup, vont essayer de voir quelles sont vos préférences et qui vous transmettent, du coup, les informations qui vont avec vos préférences. Mais est-ce que, du coup, vous ne pensez pas que des fois, ça peut poser problème?
Oui, parce qu'il y a des trucs pas très bien sur TikTok aussi.
Comme quoi?
L'autre fois, il y a un chat, il s'est fait mixer.
Est-ce que tu peux élaborer un peu? C'est-à-dire que tu as vu une vidéo?
Ouais, c'est un enfant, il a mis son chat à mixer.
Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, souvent, les informations peuvent être fausses parce que ceux qui la diffusent ne sont pas très nets et ont des intentions mauvaises. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention sur les réseaux et suivre des gens qui ont toute notre confiance.
Comment on sait à qui faire confiance ou non sur les réseaux sociaux alors ?
Moi, je regarde les sources et souvent, ces gens aussi qui ont... Des valeurs sûres et des sources sûres. Ils sont suivis par beaucoup de gens.
Est-ce que tu es sûr qu'être suivi par beaucoup de gens, c'est une raison suffisante pour qu'on ait totalement confiance en la personne qui publie quelque chose sur un réseau social? Parce que, je sais pas moi, une personnalité de télé-réalité, par exemple, elle peut être suivie par plus de personnes qu'un journaliste. Et pour autant, peut-être que cette personne-là, elle peut mettre des choses qui sont fausses ou sur lesquels elle ne s'est pas vraiment renseignée, les publier, en fait, finalement, tu vas t'apercevoir que c'était une mauvaise information.
Oui, dans ces cas-là, il faut vérifier les sources et il faut être sûr que ces informations sont vraies. Et souvent, quand les gens sont nets, ils disent leurs sources.
Aussi, j'aimerais intervenir. Je voulais aussi dire que les comptes, parfois, on peut plus accorder notre confiance aux comptes qui ont un petit badge certifié. C'est comme ça que je fais un petit peu plus confiance.
Et est-ce que tu sais que, par exemple, en ce moment, sur Twitter, la certification, faut la payer?
Ouais, je sais. Mais après, moi, je regarde pas sur Twitter, je regarde sur TikTok.
Et est-ce que tu sais comment on fait pour obtenir cette certification sur les autres réseaux sociaux? Non, parce qu'en fait, c'est comme, je sais pas, quand tu vas en magasin et que tu achètes un fromage AOP. C'est bien d'acheter un fromage AOP, mais en fait, il faut savoir c'est quoi qui se cache derrière pour savoir pourquoi c'est bien ou pas ce label. Et parfois, il y a des labels bio, par exemple. En fait, si tu creuses et que tu regardes quels sont les critères pour obtenir ce label bio, bah, tu te rends compte qu'il y a des critères qui sont pas très stricts et au final, que ce label bio, il vaut pas grand-chose. Et bah, ça peut être pareil pour les pastilles bleues. En fait, finalement, des fois, c'est juste par rapport au nombre d'abonnés qu'on peut obtenir une pastille bleue. Et dans ce cas-là, bah, c'est toujours le même argument que tout à l'heure, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'abonnés et qu'on a une pastille bleue que forcément on est plus digne de confiance que quelqu'un qui aurait moins d'abonnés et qui aurait pas nécessairement une pastille bleue.
Et c'était Fréquence Buissonnière avec le collège Marcel Lapierre de Saint-Jean-du-Gard sur Radio Grille Ouverte.